Le journal Alexandre Michler.
Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde peut désormais se dire oui. Depuis aujourd'hui, le mariage est ouvert à toutes et à tous. En Suisse, les couples homosexuels ont désormais les mêmes droits que les hétérosexuels. Alors, qu'est-ce que cela représente pour la communauté ? Commentaires et témoignages dans un instant. La réforme de l'AVS ne doit pas se faire sur le dos des femmes. Le PS, les Verts et les syndicats à l'origine du référendum contre AVS 21 sont entrés dans l'arène ce matin pour lancer la campagne. Ils estiment que ce projet de démantèlement n'est pas acceptable et ils nous diront pourquoi dans cette édition. En sport, c'est parti pour le Tour de France. Le grand départ sera donné à 16h cet après-midi à Copenhague. Présentation du tracé et rencontre avec l'un des Suisses en lice dans notre point sport. Le soleil revient gentiment mais sûrement. Selon les spécialistes de Météo News, il devrait être de retour cet après-midi ou en soirée selon les endroits. Il devrait nous accompagner pour une bonne partie du week-end. Le retour de quelques orages isolés n'est pas attendu avant dimanche, en fin de journée. Nous sommes le vendredi 1er juillet, jour particulier pour bon nombre de personnes en Suisse, où on peut même parler d'une journée historique, une journée qui vous a en tout cas inspiré ce commentaire, Adrien Juvet.
Ce vendredi 1er juillet, un jour particulier. Depuis ce matin, figurez-vous qu'en Suisse, deux femmes ou deux hommes peuvent se dire oui, peuvent se marier. Cette minorité accède aux mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Les amoureuses et les amoureux auront un même accès au mariage. C'est la fin d'une différenciation à l'état civil, c'est la fin d'une discrimination, enterrée par le peuple suisse et les cantons, qui ont voté de manière unanime afin d'élever l'amour au-delà des jugements, afin que chacun puisse vivre comme bon lui semble, sans que l'État ne vienne dire de manière arbitraire qui a le droit de vivre ensemble et de s'aimer.
Et pourtant, la fin de cette discrimination n'était pas gagnée d'avance, Adrien.
Et non, ce n'était pas gagné d'avance. Rappelez-vous les tensions que provoquait le pavillon sur lequel tout le monde pouvait symboliquement se marier à Yverdon lors d'Expo 02. Souvenez-vous aussi des messages d'ouverture délivrés par François Sylvan au moment de la votation sur le Pax et les réactions que cela provoquait. Et puis c'est une période que je n'ai pas vécue, mais au travers de reportages, de documentaires, aussi d'un film suisse, Der Kreis, j'ai pu percevoir à quel point depuis les années 50, notamment dans le canton de Zurich, le chemin de croix a été long et ardu pour celles et ceux qui ont su faire bouger les mentalités. Alors aujourd'hui n'est cependant pas une ligne d'arrivée, comprenez-moi bien, le marathon se poursuit pour la tolérance, pour accepter nos voisins tels qu'ils sont, pour vivre ensemble dans le respect de chacun. Aujourd'hui, ce n'est pas une ligne d'arrivée, mais il me tenait à cœur de rendre hommage et de remercier toutes ces personnes et tous ces politiciens, ces politiciennes qui se sont mobilisés, qui se sont battus pour que cet après-midi, je puisse dire oui à la personne que j'aime.
Merci Adrien Juvet, notre rédacteur en chef, pour ce commentaire. Et dans la région, des couples du même sexe vont transformer leur partenariat enregistré ou tout simplement se dire oui au civil pour la première fois. Nous ne pouvons pas vous donner de chiffres pour le moment car l'office de l'état civil du Jura bernois que nous avons contacté ce matin n'était malheureusement pas joignable. Mais nous avons contacté Christophe Chénia, il est membre du comité de Juraguet, l'association LGBTIQ+, de l'arc jurassien. Il va se marier avec son compagnon Christian Aldi au mois d'octobre. Il nous explique pourquoi ils ont pris la décision de franchir le pas. Christophe Chénia.
On a longtemps hésité, on s'est déjà battu à l'époque pour le partenariat enregistré. Dans le but, c'était finalement de pouvoir avoir à peu près les mêmes droits que tout un chacun. Et puis, ces dernières années, on a beaucoup réfléchi dans le sens où c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. Et puis, à un moment donné, c'est toute la réflexion de construire ensemble quelque chose. On construit un projet de vie, on vit ensemble, on a plein de choses en commun. Et à un moment donné, c'est l'accès au mariage pour toutes et tous nous permet finalement de protéger l'autre, protéger son conjoint dans les aléas de la vie, en fait.
Aujourd'hui, en tant que premier jour où c'est vraiment possible, ça représente quoi pour vous ?
Pour moi, ce n'est pas à titre individuel, c'est plutôt à titre de la société. Je trouve que la société, finalement, a énormément évolué. a une présence de construire ensemble, et je trouve que c'est ça qui est chouette, quoi. Moi qui me bats pour les droits des personnes LGBTIQ+, depuis une vingtaine d'années, je trouve qu'arriver à cette période-là charnière, c'est vraiment génial, quoi.
Voilà, Christophe Chenia répondait au téléphone de Lydiane Guenat pour évoquer donc cette journée si particulière. On rappelle aujourd'hui, 1er juillet, les couples homosexuels ont désormais également le droit de se marier. Les archives photographiques pour négocier la vérité, c'est ce à quoi s'intéresse le Photo Forum Pascal à Bienne, qui a présenté ce matin deux nouvelles expositions, celle de l'Iranienne Sheida Soleimani et du Belge Emmanuel Van der Auwera. Présentation avec Ursina Leutenegger, elle est médiatrice au Photo Forum.
Les deux artistes invités montrent différentes stratégies pour l'utilisation des archives visuelles et ils réinterprètent en deux mondes très différents comment faire avec tant une capacité des images chaque jour dans des réseaux sociaux et comment fonctionne notre choix des images et qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait avec ces images qu'on voit. Et aussi pour développer peut-être une approche constructive et critique au matériel photographique, en mettant en évidence la manière dont les photographies contribuent à établir certains rapports de force.
Donc ça, ce lien entre images, médias, les images diffusées par les médias, ça c'est ce que le Photoforum souhaite questionner tout au long de l'année, c'est ça?
Oui, c'est ça. Notre programme annuel vraiment tourne autour des questions d'archives photographiques et la question de documenter quelque chose et comment ces images peuvent vraiment monter la vérité ou pas, ou qu'est-ce que c'est vrai, ou qu'est-ce qu'on monte, qu'est-ce que c'est notre choix de monter, de cacher, d'en parler.
Un des propos recueillis par Diana Dacosta, des clichés de ces expositions seront à retrouver sur rgb.ch dans l'après-midi, des expositions à découvrir dès demain et jusqu'au 4 septembre. La Suisse a été parcourue par de violents orages entre hier soir et ce matin. Le canton du Jura, l'Oberland bernois, le Tessin et la Suisse orientale ont été particulièrement touchés, mais aucun dégât important n'a été signalé pour l'instant. Des grêlons mesurant jusqu'à 5 cm de diamètre ont été observés à certains endroits. La Suisse devrait rapidement proposer une deuxième dose de rappel du vaccin anti-Covid. C'est l'avis émis aujourd'hui dans la Basler Zeitung par le président de la conférence des directeurs cantonaux de la santé. Lukas Engelberger rappelle que la protection contre le virus diminue avec le temps. La deuxième dose de rappel n'est actuellement pas officiellement autorisée par SwissMedic ni recommandée par la Commission fédérale pour les vaccinations pour le grand public. La bataille pour ou contre AVS 21 est lancée. Les citoyens suisses trancheront dans les urnes le 25 septembre. Ce matin à Berne, les syndicats et les partis de gauche qui ont fait aboutir le référendum avec plus de 150 000 signatures ont présenté leurs arguments. La réforme AVS 21, disent-ils, se fait notamment sur le dos des femmes avec le relèvement de l'âge de la retraite de 64 à 65 ans. Un chiffre est brandi. En moyenne, les femmes perdront 26 000 francs de rente. Alors la réforme ne tend-elle pas vers l'égalité homme-femme avec la retraite pour tous à 65 ans? Pour la conseillère nationale verte Léonore Porchet, vice-présidente du syndicat Travail Suisse, c'est de l'égalité à l'envers.
Parce que ce qui est dit, c'est qu'on doit mettre à l'égalité de l'âge de la retraite. Mais la Suisse, c'est de loin, très loin d'être exemplaire en matière d'égalité, avec encore de très fortes discriminations, les inégalités salariales qui augmentent en 2022, avec toujours les femmes qui assument une part beaucoup plus importante du travail non salarié, avec une femme sur six qui est dans la pauvreté au moment de la retraite. Et dire que la VS 21, c'est un pas vers l'égalité, c'est vraiment une escroquerie.
Et pour le président de l'Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard, le programme AVS 21 peut se résumer en trois points. Payer plus avec 4 dixièmes de TVA supplémentaire, travailler plus et baisser les rentes. Il y voit même un complot de la droite et des milieux des assurances qui veulent réduire l'impact de l'AVS et de la LPP au profit du troisième pilier. Pierre-Yves Maillard.
Ce n'est pas un complot puisque celui-là est tout à fait transparent. Quand vous votez une augmentation des déductions possibles pour le troisième pilier jusqu'à 15 000 francs, ce qu'à peine 10% de la population peut se payer et qui coûte environ 500 à 600 millions de francs, Et puis qu'en même temps, vous baissez les retraites des femmes et en fait les prestations de l'AVS, on voit très bien qu'il y a en fait une volonté non pas d'assainir financièrement l'AVS, parce que l'argent semble là pour les baisses d'impôts pour les riches, mais en fait de déplacer les parts de marché de l'assurance sociale vers le troisième pilier, qui évidemment permet de distribuer des marges lucratives et des bénéfices à l'industrie de la finance.
À propos recueilli par notre correspondant à Berne, Serge Jubin, et pour mémoire, le Conseil fédéral et une majorité du Parlement soutiennent AVS 21. Lundi prochain, des femmes de droite viendront expliquer pourquoi il faut adopter cette réforme. Les perspectives pour l'économie suisse restent positives. La dynamique a toutefois perdu de son élan. L'indice PMI des directeurs d'achat a reculé en juin, aussi bien pour l'industrie que pour les services, même s'il reste clairement au-dessus du seuil de croissance. L'inflation reste au centre des préoccupations, mais le relèvement des taux directeurs de la Banque nationale suisse n'a eu pour l'heure qu'un impact marginal sur l'industrie, selon Crédit Suisse. Et puis le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en juin. Le renchérissement s'est ainsi hissé à 8,6% sur un an, a annoncé Eurostat ce matin. Alors que la guerre en Ukraine attise une flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation avait atteint 7,4% en avril et 8,1% en mai pour les 19 pays ayant adopté la monnaie unique. Ces chiffres sont les plus élevés enregistrés par l'Office européen des statistiques depuis le début de la publication de l'indicateur. C'était en janvier 1997.
Vous écoutez RJB, il est tout juste midi 27.
Sport. Les cyclistes de la Grande Boucle vont donner leur premier coup de pédale cet après-midi. Le Tour de France s'élance de Copenhague avec trois premiers jours de course au Danemark. L'arrivée sera jugée le 24 juillet sur les Champs-Élysées à Paris. D'ici là, le peloton fera aussi un passage en Suisse avec une arrivée à Lausanne dans 8 jours, le samedi 9 juillet, et un départ d'Aigle le lendemain. Le tracé de cette 109e édition semble taillé pour un grimpeur, comme l'explique notre consultant cycliste, l'ancien professionnel Christophe Moreau.
Des difficultés bien disséminées tout au long du parcours, du côté évidemment des Alpes et des Pyrénées. Une arrivée à l'Alpe d'Huez et toujours des arrivées au sommet très très difficiles. Et c'est clair que pour Tadej Pogacar, le vainqueur sortant, ce sera encore un parcours sélectif. Ça reste le Tour de France, mais avec quelques petits pièges au début. On parle du Danemark, les bordures, les pavés de Roubaix la première semaine avant d'arriver du côté de la planche des Belles-Filles le 8 juillet pour une première arrivée au sommet.
Vous avez lâché le nom du grand favori de cette 109e édition, le Slovène Tadej Pogacar. Il y a un peu l'épouvantail aussi l'équipe Jumbo-Visma, c'est un duel entre le Slovène et la Jumbo-Visma qu'on doit voir. Est-ce qu'on peut imaginer un autre scénario?
Je crois que c'est un scénario essentiel, je pense qu'il sera primordial sportivement. Après, on l'a dit, il y aura quelques pièges sur cette première semaine qu'il faudra affronter. Plus l'invité surprise de ce Covid avec des coureurs positifs qui pourraient quitter le Tour. Bref, des conditions un peu particulières cette année. Mais néanmoins, on peut parler de ce duel, ce gros team Jumbo-Visma avec Vingegaard et bien sûr Primoz Roglic et Pogacar qui sera le vainqueur sortant et pour une troisième passe sur ce Tour de France.
Christophe Moreau qui répondait à Mathieu Schaffner. Retrouvez un entretien plus large à propos du Tour de France sur notre site internet. Le grand départ sera donc donné à 16h à Copenhague avec un contre-la-montre de 13,2 km dans les rue de la capitale danoise. Cette première étape pourrait permettre aux spécialistes suisses du chrono, Stefan Küng et Stefan Bisseger, de s'emparer du maillot jaune de leader, même s'ils n'ont pas connu la préparation idéale avec notamment des contaminations au Covid. Stefan Küng.
Je croyais à des autres favoris qui ont eu une meilleure préparation que moi, si je peux dire comme ça, parce que je suis bien sorti du Tour de Suisse et au lieu de me préparer comme il faut, ouais, j'étais en train de lutter contre une petite infection avec le Covid, mais on verra bien qu'est-ce que ça donne, parce que des fois, si on se met trop de pression et tout, ça peut aussi être contre-productif. Donc là, je peux partir libéré, je sais qu'est-ce qu'il faut pour gagner un tel chrono, donc ouais, je vais tout donner pour faire le maximum.
Des propos recueillis par nos confrères de la RTS, la 109e édition du Tour de France cycliste commence donc aujourd'hui à Copenhague, premier départ du contre-la-montre à 16h au Danemark. En football, la FIFA a validé aujourd'hui l'utilisation du hors-jeu semi-automatique lors du mondial du Qatar cet hiver. Cet outil est destiné à accélérer et à fiabiliser les décisions arbitrales. Il permet d'établir à tout moment la position des joueurs et du ballon, facilitant ainsi la détection des hors-jeux sans toutefois remplacer l'appréciation des arbitres. Un duel de mal classé en Liga d'inline hockey. L'avant-dernier Bienne Skater 90 reçoit la Lanterne Rouge SHC Ajoie aujourd'hui à 19h45. Une victoire permettrait aux Célandais de revenir à 2 points de la barre. Enfin, les acrobates sur deux roues ont rendez-vous dans le Jura bernois dimanche avec le trial de Tramelan qui fait office de 5e manche du championnat de Suisse. Les motards s'élanceront à dès 9h sur les 8 sections de la carrière Huglet. Il est 12h30, la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi avec nous, dans toute la rédaction. Une excellente après-midi.